Et c'est encore une fois, bonjour. C'est toujours notre joie d'être ensemble, puisque c'est là que Dieu déverse sur nous ses bénédictions en abondance. Nous allons méditer ensemble sa parole en ouvrant nos Bibles dans 1 Samuel. 1 Samuel. Chapitre 16, du verset 10 au verset 13. 1 Samuel 16, verset 10 à 13. Isaïe fit passer 7 de ses fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, ce sont là tous tes fils? Il répondit, il reste encore le plus jeune. Mais il fait paître en les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Que Dieu d'ailleurs bénisse sa parole. Le titre de notre méditation ce matin, c'est « Un bon choix ». Un bon choix. Chaque être humain est destiné à choisir dans sa vie ce qui lui convient, ce qui lui plaît et ce qui lui est agréable. Depuis la genèse de notre histoire, cette question de choix entre le bien et le mal, entre la vie et la mort, était dressée devant nous. Selon la parole de Dieu, nous allons voir les critères d'un bon choix, l'onction et l'œuvre de celui qui est oint. Pour choisir un produit dans un magasin, dans un supermarché, on vérifie son origine et les matières qui le composent. Et si nous faisons les infos, nous allons voir dans les supermarchés comment les clients tournent autour des rayons pour trouver, ce qui est bon. Et tout le monde cherche ce qui est bon, ce qui est bien. Pour choisir un métier, il faut voir quelle entreprise ou quel secteur qui en aura besoin. On ne peut pas choisir un métier comme ça sans savoir où est-ce qu'on va trouver un emploi à partir de son métier. Et pour choisir la femme de sa vie ou l'homme de sa vie, les critères sont différents les uns des autres. C'est pas facile de choisir, mais il faut faire un choix selon les critères convenables. Souvent, nous essuyons des échecs et des déceptions parce que tout simplement, nous n'avons pas fait le bon choix. Et quand le bon choix n'a pas été fait, c'est soldé sur des regrets, sur des remords, sur des duels, sur des insatisfactions. Parce que le bon choix n'a pas été fait. Toutes nos pensées sont mauvaises et se tournent uniquement vers le mal. Comment pouvons-nous alors choisir ce qui est bon? Le peuple Israël avait connu toutes les peines du monde par son roi Saül, qu'il avait lui-même choisi. Le choix était fait par le fanatisme, le parti pris, par accointance sur la prestance. Et le peuple Israël en avait payé les conséquences très dures. Si nous laissons à Dieu le choix de choisir pour nous, notre attente sera soldée au succès et à la réussite, parce que c'est lui qui sonde les cœurs. C'est lui qui connaît les pensées de l'homme. Rien ne peut être caché devant notre Dieu, parce qu'il voit tout, il sait tout et il peut tout. Rien, absolument. Abraham, Moïse, Josué, Élie, Élisée, tous ces hommes étaient appelés par Dieu pour son service. Tous. Dans le Nouveau Testament, les disciples étaient choisis par Dieu. Depuis Actes des Apôtres, chapitre 1er, l'Éternel dit de Paul, « Cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les rois, devant les nations. » Et pour porter mon nom devant les fils d'Israël. Selon Actes chapitre 9, le verset 15. Pendant Saul et Barnabas servaient le Seigneur dans leur ministère, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part ces deux hommes pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Les disciples et les apôtres étaient appelés, formés et envoyés par Dieu. Je répète, ils étaient appelés, formés et envoyés par Dieu. Selon Matthieu chapitre 5, du verset 1er au verset 12, il les a formés, comme nous sommes là ce matin. L'apparence est trompeuse. Dieu ne juge pas sur l'apparence. Il agit selon le cœur. Regardez ce qu'il a dit, ce que nous avons vu dans Ézéchiel, dans le verset 7 d'Ézéchiel 16. Le verset 7, l'Éternel dit à Samuel, ne prend point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille. Car je l'ai rejeté, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Je ne sais pas, nous, quand nous choisissons, quels sont nos critères. Mais l'Éternel, il voit dans le secret. Il voit le cœur, ce qui se passe. Parce que toutes nos méchancetés viennent du cœur. Et voilà pourquoi c'est notre cœur qui intéresse à Dieu. C'est le cœur qui glorifie son nom. C'est le cœur qui mérite d'être sauvé. Ce cœur de pierre, c'est Dieu seul qui puisse le changer en cœur de chair. Dans beaucoup de familles d'aujourd'hui, les enfants qui travaillent sont rois. Et ceux qui ne travaillent pas sont négligés fort souvent. Sont négligés. Cependant, il y a des services fournis par l'enfant méprisé que l'argent ne peut pas payer. L'argent n'est pas un remède universel. L'argent ne peut pas guérir tous les maux. On peut avoir beaucoup d'argent, mais à la vérité, il y a quelque chose, un soin dont on a besoin, l'argent ne peut pas le payer. Ça fait toute la différence. Parce que quand nous sommes malades, l'argent est de côté. Si le médecin ne peut pas, c'est Dieu seul qui peut nous guérir. Et c'est lui seul qui peut nous sauver. Alors attention, très souvent celui que nous méprisons est plus sensible que l'autre que nous chérissons. Quand nous sommes malades, c'est lui qui reste au chevet avec nous, qui nous visite. Il est obéissant, il est serviable. Sans relâche. Une façon pour dire de ne pas prioriser un enfant sur l'autre enfant parce qu'il travaille, parce qu'il ramène quelque chose à la maison. Il n'y a aucun de ces enfants qui soit nul, mes frères et sœurs, aucun. Tous les fils d'Isaïe étaient invités au festin, sauf David. Vous en rendez compte? Sauf David. Est-ce que c'est parce qu'il n'avait pas de chaussures, il n'était pas en costard, comme on dit? Tous les autres se présentaient. Selon 1 Samuel, chapitre 16, le verset 10, le verset 11 que nous venons de lire, Samuel fait passer, et Isaïe fait passer devant Samuel tous ses fils. Isaïe dit, c'est pas lui, ce n'est l'un, ce n'est aucun d'eux, aucun d'eux que l'Éternel a choisi. Il n'y a pas un autre. Il n'y a pas une autre. Samuel dit à Isaïe, nous ne nous installons pas pour le repas du sacrifice avant que le jeune berger soit arrivé, le méprisé David. Avant qu'il soit arrivé, nous n'allons pas commencer à manger.
Pourtant, David était choisi depuis des temps anciens selon l'omniscience de Dieu.
Pasteur Aldo vient de le dire et nous le connaissons dans Éphésiens chapitre 1er.
Ça veut dire, depuis avant la fondation du monde, nous étions élus. Dieu nous a choisis. Et ce n'est pas nous qui marchons pour venir vers lui, c'est lui qui nous cherche.
David a toutes les qualités, puisqu'il était derrière les moutons. Il surveillait les ennemis. Il pensait les plaies. Il les écoutait. Il les accompagnait. Parce que, à ce point, c'est pas comme ça que le choix a été fait. C'était mesuré, étudié, calculé, depuis avant. Parce que c'est Dieu qui choisit, c'est pas nous. C'est Dieu.
La Bible dit que David était blond, de belle prestance, avec de beaux yeux.
Hein, sans doute des yeux d'amande, hein? Des yeux de tamarin. David avait une belle figure. L'homme selon le cœur de Dieu était humble. C'est une grande qualité pour les croyants, mes frères et sœurs. L'humilité.
Pour ne pas nous voir, nous prendre supérieurs des autres. Non! Et Jésus qui a laissé sa gloire, il est descendu vers nous. Qu'est-ce qu'il peut dire, lui? L'humilité doit être notre ADN en tant que croyant, en tant que fils de Dieu.
David était humble. Il était repentant. Quand il a péché, il demande pardon. Il est conscient de ses péchés.
David était plein de piété.
C'était un homme de foi. Car en toutes circonstances, il fait confiance à Dieu. En toutes circonstances.
David fut oint par Samuel comme deuxième roi d'Israël.
Dans Daniel chapitre 2, verset 21, Daniel dit, c'est l'Éternel qui change les temps et les circonstances. C'est l'Éternel qui renverse et qui établit les rois. C'est lui qui donne de l'intelligence à celui qui est intelligent. Et c'est lui qui donne la sagesse. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, ça vient de notre Seigneur. Parce que c'est lui qui fait tout.
En général, l'onction revêt un caractère sacré. Elle indique une mise à part pour le service. Trois catégories de personnes pouvaient recevoir l'onction. Les sacrificateurs, les rois et les prophètes. Et comme exemple, Élisée était oint par Élie. Il faut faire aussi une différence profonde entre l'onction de Saül et celle de David. Et vous allez voir cette différence profonde. Saül fit oint d'une petite bouteille de verre faite de main d'homme, appelée fiole.
selon 1 Samuel chapitre 10 verset 1er. Saül était loin par une bouteille qu'on versait d'huile, et cette huile était composée de quoi, on ne sait pas, mais il était vidé sur sa tête pour être loin. Tandis que David fut loin d'une corne, faite exclusivement de la main de Dieu. Selon 1 Samuel chapitre 16, verset 13. Il n'y a que les animaux qui ont des cornes. Et cette corne, les animaux poussent, les animaux sont nés, ils ne sont pas nés avec des cornes. Les cornes grandissent. Ça, c'est la puissance de Dieu. C'est la main de Dieu. David est loin avec ses cornes. Le roi de Dieu avait un fervent attachement au service de son Père. L'Éternel dit, j'ai trouvé en David l'homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés. Comment vous faites votre choix, mes frères et sœurs? Sur quoi nous avons nos critères, nos bases? David était choisi, l'homme selon le cœur de Dieu, pour accomplir toutes ses volontés. Et dans nos études, ici, nous étudions la volonté de Dieu. Dans Romains chapitre 12, nous avons vu que la volonté de Dieu, c'est de faire ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. C'est la volonté de Dieu. Nous connaissons la volonté de Dieu. Son influence spirituelle se perpétue par des psaumes de génération en génération. Les psaumes de David nous réconfortent, nous console, nous encourage, nous fortifie quand nous sommes malades, quand nous sommes en difficulté. C'est les psaumes. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est des psaumes. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. C'est des psaumes. Dans psaume 119, c'est le psaume le plus court, hein? Ah oui, le plus long. Pardon. Dans psaume 119, verset 9, qu'est-ce qu'il a dit? Comment le jeune homme peut-il rendre sa vie agréable devant Dieu? Pire. Comment? Il a répondu dans le verset 11. C'est en marchant selon sa parole. Est-ce que nous marchons selon la parole de Dieu? Et David dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. L'Éternel dit à David, malgré tout ça, souviens-toi d'où je t'ai pris. Derrière les moutons, dans les pâturages, pour que tu sois chef de mon peuple. Sans ignorer les combats de David contre les loups ravisseurs, à l'eau on avait parlé tout à l'heure. Nous sommes toujours en combat avec Satan, considéré comme un loup qui cherche qui il dévorera. Et il nous cherche parce que nous ne sommes pas à lui. Ceux qui sont à lui sont déjà siens. Mais c'est nous, il nous a perdus, il cherche à nous récupérer. Voilà combat, voilà pourquoi notre combat est là jusqu'au retour de Jésus-Christ. Jusqu'au retour, parce que la vie chrétienne, c'est un combat. Un combat. Et Dieu ne nous a pas donné un bâton, une machette, une arme à feu pour combattre. Il nous a donné la parole, la justice, le salut, la prière. David dépendait de façon totale de l'Éternel toute sa vie. Il mettait en lui sa confiance. Dans 1 Samuel, nous sommes Samuel, chapitre 17, versets 45 à 47. David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête aujourd'hui. Je donnerai les cadavres du champ des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. » Verset 47, « Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. » C'est dans la prière notre force. C'est dans la parole de Dieu notre force. Parce que nous ne pouvons pas lutter contre la chair et le sang. Le psalmiste faisait la louange de l'Éternel. Il faisait la louange de l'Éternel. Dans Psaume 34, verset 2, il dit, « Je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. » C'est lui qui dit, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Aucun de ses bienfaits. Quand l'Éternel nous a choisis, il est avec nous, mes frères et sœurs. N'ayons pas peur. Quand l'Éternel nous a choisis, nous sommes tranquilles. Parce qu'il combat pour nous. Hein? Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. C'est ce que Jésus a fait pour chacun de nous. Ce matin, en tant que sauvé. Nous les lisons, selon Ésaïe 53, nous étions errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous.
Si nous sommes beaux gosses ce matin, c'est grâce à Jésus. Nous sommes en forme ce matin, c'est grâce à Dieu. Sinon, nous serions dans les bourbiers encore.
L'onction dans le Nouveau Testament est exclusivement le privilège du Seigneur Jésus. De façon naturelle. Et cette onction n'a pas été matérialisée. Elle est faite par l'intervention du Saint-Esprit, selon Luc chapitre 4, verset 18. C'est Jésus même qui dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Il m'a oint. Hein? Il m'a oint. Pour libérer l'humanité de son péché. Jésus est le seul homme qui soit mis à part pour son triple ministère de sacrificateur, de roi et de prophète. Il est le seul. Personne d'autre. On peut être roi, oui, mais vous êtes roi tout simplement. Jésus, il est roi, il est sacrificateur, il est prophète. En tant que racheté, en tant que sauvé ce matin, nous avons aussi reçu l'onction. Hein? Oui, nous avons reçu l'onction du Saint-Esprit. Dans nos cœurs, Paul dit que c'est Dieu qui nous a oints en Christ. Nous sommes oints en Christ. Quel privilège! Nous sommes des sacrificateurs. Nous n'avons pas besoin de passer par Aldo pour faire monter notre prière. Nous sommes allés directement à Dieu par et à travers Jésus-Christ. Nous sommes des sacrificateurs. Pour Dieu. Nous avons reçu l'onction de celui qui est saint. Selon 1 Jean chapitre 2, le verset 27. 1 Jean chapitre 2, verset 27. Jésus a été oint pour prêcher la bonne nouvelle et libérer l'homme de son péché. David était oint pour diriger le peuple de Dieu dans les moments de persécution de toutes sortes. Il faisait la louange de Dieu. Voici ce qu'il dit à Salomon. Nous allons lire ce verset. 1 Chroniques chapitre 28. 1 Chroniques chapitre 28, le verset 9. 1 Chroniques chapitre 28, le verset 9, voici le message de David à son fils Salomon. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Et quant à nous, ce matin, nous sommes loin pour témoigner la mort et la résurrection de Jésus. Nous sommes loin pour pratiquer de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance et pour toute notre vie.
Nous sommes moins pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ à tout le monde.
Je vous exhorte ce matin à travers ce passage comme fin. Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain.
Si l'Éternel ne garde pas la ville, ceux qui la gardent veillent en vain.
Que le Seigneur nous dirige et nous révèle pendant notre pèlerinage sur la terre jusqu'à son retour et qu'il nous bénisse. Merci.